Nous revoici donc pour le module 3 de ce cours consacré à DevOps en pratique, module 3 consacré cette fois-ci aux environnements de travail. Je suis toujours donc avec Julien et Stéphane, et on va ensemble parler donc des environnements de travail, c'est-à-dire de la mise à disposition aux développeurs d'environnements de travail, de tests, de développement, et puis au final aussi la mise à disposition d'environnements de production. Donc l'objectif du module, c'est de comprendre l'évolution du rôle des Ops, qui historiquement sont chargés de mettre en place effectivement tous les procédés permettant de déployer des environnements de travail et de production. De comprendre la notion d'infrastructure as code introduite à l'occasion de DevOps. Et puis quelques outils disponibles dans l'environnement Microsoft que Stéphane va nous démontrer juste après. Donc ce rôle des Ops, tout à l'heure dans le module 1, on parlait de l'évolution liée à DevOps et notamment ce besoin de confiance entre les différents intervenants du projet, les développeurs, le métier et les ops, qui historiquement ont un petit peu de mal à accepter que quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes aille modifier la prod. Hein, mettre en prod quelque chose, c'était quelque chose de très douloureux pour les ops qui disaient en gros, tant que ça marche, on ne touche pas à la prod le moins possible, etc. Donc l'idée ici, c'est de permettre aux gens qui sont directement à la source, c'est-à-dire aux développeurs, de pouvoir mettre en prod très rapidement des choses via des processus automatisés. Et le terme automatisé est la clé de la confiance ici que les ops vont pouvoir avoir vis-à-vis des autres personnes qui vont pouvoir mettre des choses en production sur leur environnement de prod. À savoir que si, pour que les ops aient confiance dans les devs pour mettre des choses en prod, il faut que le procédé soit automatisé avec des procédés mis en place par les ops eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ont confiance dans leur process, alors ils auront confiance dans les gens qui vont utiliser leur process. Donc ça, c'est une des clés de DevOps, une des clés de confiance. Et donc le premier point, c'est l'automatisation qui va permettre d'avoir des procédés automatisés, rapides, etc. et fiables. Historiquement, si on regarde ITIL mettait en place tout ce qu'il fallait comme procédé de contrôle pour assurer en fait la fiabilité, le contrôle, la sécurité, etc. des environnements. Maintenant, avec DevOps, on va atteindre le même objectif de contrôle, de sécurité, etc., mais à travers l'automatisation des tâches.
Et donc effectivement, il y a un autre point qui est important par rapport à ça, c'est Stéphane en parlait en introduction, c'est que le cloud au final peut devenir un accélérateur de cette démarche DevOps, et grâce à ça, grâce au cloud et à toute l'automatisation qu'on va pouvoir mettre dedans, on le verra après quand on parlera d'infrastructure as code, c'est que le paradigme va changer. Là où tu disais il y a quelques années, quand ça marchait en production, on ne voulait plus y toucher parce qu'on n'était pas sûr que, en gros, ça continuerait à marcher. Au moins, là, on était sûr que ça continuait à marcher. Là, on va avoir tendance, avec l'automatisation et avec le cloud, à penser à infrastructure presque jetable et de se dire, bah, si on a une machine qui tombe ou si on a une montée de version à faire ou n'importe quoi d'autre, en fait, on ne va pas s'embêter à mettre à jour. On va casser et on va redéployer. C'est vraiment comme ça qu'on va raisonner de plus en plus avec cette infrastructure qui devient jetable. Et donc du coup, comme tu le disais, le fait d'automatiser tous ces processus, ils sont maîtrisés par les équipes opérationnelles. Donc il y a une certaine confiance et ils vont être vraiment utilisés uniquement par les équipes de développement sur le projet.
Exactement. Et on va reparler dans la slide d'après à propos de l'infrastructure as code justement.
Exactement.
Qui dit automatisation et qui dit permettre à d'autres personnes que les ops d'intervenir sur la prod et les environnements de travail, dit délégation. Délégation en termes de délégation des permissions pour faire en sorte que les gens qui doivent intervenir sur la prod puissent le faire, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on va faire de la délégation de façon à pouvoir dire, bah tiens, les développeurs, ils ont le droit de déployer tel et tel type d'infrastructure, de faire tel et tel type d'opération sur la prod, par exemple, si c'est le cas échéant. Troisième point, les quotas de ressources. Il peut être nécessaire, notamment dans les environnements de type cloud, dont tu parles à juste titre, de faire en sorte qu'on ne dépasse pas une certaine dépense mensuelle ou annuelle, je ne sais pas, sur le cloud, parce que dès qu'on met des ressources dans le cloud, ça coûte de l'argent. Donc il faut faire en sorte que, et on le verra avec la dernière démonstration de ce module, que par exemple, on pourra mettre en place des procédés qui font que automatiquement, des environnements de test ou de dev ou de lab peuvent être supprimés automatiquement de façon à ce que ça ne coûte pas de l'argent de façon inutile. Donc le métier des ops, le rôle des ops change un petit peu et les ops vont devenir un petit peu fournisseurs de catalogue de services vis-à-vis des autres intervenants du projet. Ils vont fournir des scripts, des configurations, des points de supervision également, de façon à établir cette fameuse confiance en l'infrastructure, dans sa capacité, comme c'est écrit ici, à répondre de manière fiable, sécurisée et contrôlée.
Et du coup, ça, effectivement, c'est un point qui est vraiment important. On parlait de responsabilisation des rôles. Oui. En introduction, le fameux wall of confusion où le développeur envoie le package à la prod. Aujourd'hui, en fait, c'est l'IT, les ops qui vont mettre en place tous les process pour la mise en prod. Mm-hmm. Et au final, c'est le développeur qui va le faire. On en parlera après puisque tout sera déclenché par un commit dans le code source. Donc en tant que développeur, je vais envoyer une fonctionnalité et ça va déclencher de l'intégration continue, du release management, etc. qui aura été mis en place par les équipes opérationnelles, on aura eu les scripts d'infrastructure, etc. Mais au final, la responsabilité, s'il y a un souci, ce sera celle de la personne qui a fait la mise en production, qui l'a déclenchée. Donc on a vraiment cette collaboration au travers des outils, cette responsabilisation qui entre en jeu quand on parle justement de toute cette infrastructure as code, mise à disposition d'environnement de travail à ce niveau-là.
Donc on parle d'automatisation, tu parlais tout à l'heure d'infrastructure jetable entre guillemets, c'est-à-dire que plutôt que de mettre à jour, je redéclenche un déploiement complet, par exemple pour une infrastructure de test de dev. On va parler ici donc d'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est penser l'infrastructure comme un développeur pense son code. Alors pourquoi ceci? Quand on parle d'automatisation, on va parler de script, de scripting, donc on va parler langage de script. Et on va considérer que l'infrastructure, c'est équivalent à penser au script qui va générer cette infrastructure. Et ce script, bah, ça peut être, si on le résume à ce que c'est physiquement, ça va être un fichier texte. Et ce fichier texte, il peut être géré dans des outils de code source, avec un numéro de version, avec des branches, etc., etc. Donc tout ce qui va permettre de générer les infrastructures, tout ce qui est automatisation de la génération d'infrastructures, va pouvoir être géré avec les outils qu'on connaît bien. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre parce que c'est de l'infra. Les développeurs ont des années et des années d'expérience en gestion de code source et de version, et donc on va réutiliser ces mêmes outils. Donc tout à l'heure dans le module 2, on parlait de mise en commun d'outils pour ce qui est de la gestion des tâches, mais on va également favoriser l'utilisation des mêmes outils pour la gestion des sources, qu'ils soient développement ou infrastructure. Et donc quand on dit associer le dev et l'infra dans les dépôts de code, cela signifie en fait qu'on va stocker au même endroit qu'on va stocker le code, les codes d'infrastructure, donc tout ce qui est infrastructure as code, avec la même gestion des numéros de version, etc. Enfin, on parle de script, mais un script, parfois, ça peut faire des tâches élémentaires très intéressantes, mais quand on veut déployer une infrastructure un petit peu plus évoluée qu'une simple machine virtuelle et un VNet, on peut penser à des outils d'orchestration un petit peu plus conséquents, comme Orchestrator, ou comme Azure Automation, qui est un composant d'automatisation de type orchestration à l'intérieur d'Azure, donc qui va exécuter des runbooks d'orchestration directement dans Azure. Dans la pratique, quand on va déployer de l'infrastructure, on va opérer en deux phases. La première phase, c'est le provisionnement. Le provisionnement, c'est la mise à disposition de l'infrastructure de base. Par exemple, on va fournir des machines virtuelles, des VNet, des réseaux virtuels, des clusters de serveurs, etc. Par exemple, si on veut faire du container, on va fournir une infrastructure de base qui va être un cluster de serveurs de container, à travers, par exemple, ACS, Azure Container Service, qui va pouvoir faire ça en une seule opération. Donc ça, c'est le provisionnement. Donc le provisionnement, il y a plusieurs outils dont on va voir des exemples après qui permettent de faire ce provisionnement très simplement, notamment les modèles ARM, les modèles Azure Resource Manager, dont on va parler après. La deuxième phase, c'est le déploiement. Et par déploiement, on va entendre déployer sur cette infrastructure de base qu'on a provisionnée tous les composants logiciels dont on va avoir besoin, qu'il s'agisse des applications elles-mêmes, mais également des middleware, des applications élémentaires comme par exemple un serveur web, déployer un Apache sur un Linux ou un IIS sur un Windows, ça fait partie du déploiement. Et donc cette configuration, on parle également de gestion de configuration et donc d'outils de gestion de configuration de nos machines qu'on va déployer dans la première phase de provisionnement. Donc gestionnaire de package, on va en reparler également. Gestionnaire de containers, donc de déployer tout ce qui concerne les containers sur nos hôtes de containers, nos serveurs de containers. Et puis les outils de gestion de configuration déclarative comme PowerShell DSC, le Desired State Configuration, Puppet, Chef, Ansible, on connaît également ces outils en infrastructure classique. Donc tous ces outils vont permettre de faire de la configuration déclarative, c'est-à-dire déclarer dans un source, un script si on veut, mais un script purement déclaratif, la configuration désirée de notre serveur en l'occurrence. L'intérêt, c'est que cette configuration, elle va pouvoir également être gérée en gestion de version et gestion de source, etc.
Et on va pouvoir la chaîner avec le provisioning, ce qui fait qu'automatiquement, on déclenchera la configuration dans la foulée du provisioning, et ce qui permettra d'avoir exactement la configuration choisie.
Tout à fait. En général, on provisionne une machine virtuelle, par exemple dans Azure, en lui disant, bah, tiens, quand tu vas démarrer, tu vas exécuter ce script, etc.
Et donc là, la clé, encore une fois, c'est l'automatisation. Puisque,
c'est l'automatisation.
On va écrire ces scripts une fois, on va les faire évoluer dans le temps. Et ensuite, on va les automatiser leur exécution dans des process d'intégration continue ou de release management. On le verra par la suite.
Donc parlons d'Azure. Hein, et dans Azure, on trouve déjà de base des composants qui permettent d'exécuter du PowerShell DSC, du chef du Puppet, enfin des agents chef Puppet, Ansible, et même SaltStack sur nos machines virtuelles.
Alors dans certains cas, c'est des agents prédéfinis typiquement pour DSC. Dans d'autres cas, on s'appuie simplement sur des custom scripts extensions qui permettent de lancer des bâches qui vont ensuite activer Ansible, c'est des façons de faire.
Donc Julien, dans la pratique, infrastructure as code.
Alors dans la pratique, infrastructure as code, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'un des premiers avantages qu'on va avoir, au-delà du fait qu'on scripte tout et que du coup tout est réutilisable et automatisable, c'est qu'on va stocker ces scripts dans un repository de code source. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet en détail dans un autre module. Mais en gros, l'idée, c'est que le contrôle de code source, il est utilisé depuis des années par des développeurs pour développer les applications, faire des commits, donc sauvegarder le code, mais également avoir tout l'aspect d'historisation et de labellisation des sources pour dire bah voilà, ce code source correspond à la version 1.0, ce code source à la 2.0, 2.1, 2.2, etc., etc. Et en fait, on va appliquer exactement le même pattern à notre infrastructure as code. Ce qui fait que là où ça vous est peut-être déjà arrivé quand on a un problème en prod sur une version N-4, que celle qui est en train d'être développée, voire celle qui est en production actuellement, bah, il faut reconfigurer l'infrastructure, donc retrouver éventuellement les scripts si on en avait fait, voire se souvenir l'ordre dans lequel on avait installé les différents composants, etc. Alors que là, en ayant dans un même source repository le code de l'application et le code de l'infrastructure, on va tout simplement faire une opération de retour arrière pour dire bah, je veux aller à la version 2.0 de l'application, et on va être capable de redéployer aussi bien l'applicatif que l'infrastructure qui était associée, même si c'était il y a 2 ans et qu'aujourd'hui tout a changé à ce niveau-là. Donc c'est vraiment ce point-là qui va être très utile, c'est cette capacité à versionner l'infrastructure pour pouvoir déjà tout automatiser et puis tout déployer automatiquement, mais aussi revenir en arrière à un moment donné. Et donc du coup, l'idée c'est simple, hein, c'est qu'on part d'un script et ce script-là, il va nous permettre de déployer différents environnements, créer des machines virtuelles, créer des bases de données, créer des hôtes de conteneurs, comme tu le disais, bref, à peu près tout. Et dans Azure, ce qui va nous permettre de faire ça, en particulier, c'est Azure Resource Manager. Donc je le disais, les cibles de déploiement, elles peuvent être diverses et variées, puisque quand on parle infrastructure as code, on a tendance à se dire ça va être que pour des machines virtuelles, vraiment que pour déployer de l'infrastructure, et on va mettre de côté peut-être un petit peu les services annexes, les services de plateforme as a service, comme Azure Cloud Service ou Azure App Service, pour déployer des applications web sur une plateforme, donc sans se préoccuper au final de l'infrastructure qui est en dessous et de la configuration, voire même tout simplement pour déployer des bases de données. Aujourd'hui, quand on est sur un projet d'application web, on a en général une base de données qui va tourner derrière pour héberger nos données, voire plusieurs, voire des services de cache, des services de CDN ou plein d'autres choses, des services de sécurité. Tous ces services-là, en fait, on va pouvoir les inclure dans nos scripts d'infrastructure pour déployer un environnement qui soit complet et qui soit vraiment le plus exhaustif possible, qu'on pourra, et enfin, du coup, derrière, l'idée, c'est d'utiliser ces scripts pour cloner les environnements et pouvoir déployer des applicatifs à la demande à l'intérieur. l'extérieur. Donc il ne faut pas restreindre l'infrastructure as code au déploiement de machines virtuelles. Ça va être vraiment déployer des services divers et variés. Tu parlais de la gestion de configuration aussi derrière, utiliser du PowerShell DSC pour la partie configuration des machines, puis des outils comme Chef ou Puppet pour aller faire de la configuration à l'intérieur. Tout ça, ça fait partie de l'infrastructure as code c'est vraiment important de le garder en tête. Et donc du coup, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, dans Azure, on a quelque chose qui s'appelle Azure Resource Manager, qui est arrivé depuis quelques temps. Et la première notion à comprendre dans Azure Resource Manager, c'est la notion de groupe de ressources, qui va en fait me permettre, dans un premier temps, de regrouper toutes les entités, tous les services qui vont composer mon application dans un même groupe logique. Donc il n'y a pas du tout de notion physique au niveau du groupe de ressources. C'est vraiment juste de dire je vais regrouper mes frontaux web, ma base de données, ma VM ou mon cluster qui fait du big data, etc. dans un seul et même groupe de ressources pour en avoir une vue comme un ensemble et potentiellement pouvoir le cloner, le dupliquer, le supprimer comme un tout. Mais également avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité d'avoir une vue globale sur la facturation de ce que me coûte mon application. Si aujourd'hui j'ai mon application qui me permet de gérer mes ressources humaines, qui a une base de données, un service de cache, plusieurs frontaux web, etc., j'ai pas envie d'aller passer sur chaque service pour savoir combien ça me coûte au final, à la fin du mois ou à la fin de l'année. J'ai envie de voir ça comme un tout. Je vais aussi pouvoir taguer les différentes ressources à l'intérieur de mes groupes pour pouvoir les retrouver plus ou moins facilement, pour pouvoir retrouver les ressources qui sont utilisées dans mon service RH, dans mon service client, dans mon service IT, etc., etc. Et un autre point qui est très important que tu as cité tout à l'heure, c'est la capacité à gérer des droits assez finement sur ces ressources. C'est aussi quelque chose qui est introduit avec Azure Resource Manager via une entité qui s'appelle RBAC, pour Role Based Access Control, où là l'idée en fait c'est d'utiliser l'Active Directory qui existe de toute façon à partir du moment où on a une souscription Azure pour contrôler qui a le droit d'accéder à tel ou tel groupe de ressources. Donc en tant qu'équipe opérationnelle, je vais pouvoir mettre à disposition des groupes de ressources à des équipes de développement, que ce soit des environnements derrière de production, de recettes, de staging, de sandbox ou je ne sais quoi, et définir clairement quels sont les droits qu'ils vont avoir dessus. Est-ce qu'ils vont avoir le droit de créer, modifier, supprimer des ressources à l'intérieur? Est-ce qu'ils vont être propriétaires de ces groupes de ressources? Ou alors est-ce qu'ils vont tout simplement avoir des droits en lecture seule, juste pour venir vérifier quelques informations ou quelques dashboards pour s'assurer que tout fonctionne bien? Donc c'est vraiment toutes ces notions-là que vont nous amener les groupes de ressources dans Azure Resource Manager. Et donc du coup, la manière dont on va gérer et créer ces groupes de ressources via l'Azure Resource Manager, c'est en utilisant des templates. Et donc ces templates, ça va être du JSON, c'est le langage à la mode pour décrire plein de choses en ce moment, puisque c'est relativement peu verbeux, même si on verra peut-être que dans les démonstrations de Stéphane, la première fois qu'on voit un script Azure Resource Manager, ça peut faire un peu peur, pourtant c'est pas...
Faut pas avoir peur.
Mais en gros l'idée c'est que c'est vraiment, on le verra, c'est tout simple, hein, c'est vraiment juste de décrire les ressources qu'on va vouloir utiliser. Je veux déployer une web app. Une web app, c'est d'abord un service de type web app qui va être rattaché à un web hosting plan pour les machines et le niveau de qualité de service qu'on va vouloir avoir derrière. Ça va être potentiellement complété par un service Application Insight pour aller faire du monitoring et par une base de données Azure SQL Database pour stocker mes données, par un cache Redis, par des machines virtuelles qui vont traiter des données en continu. Bref, toutes ces informations-là, comme on peut voir sur le slide, on va les décrire sous la forme de JSON dans des templates Azure Resource Manager. Et ce qui est intéressant en fait avec ces templates, c'est que on va pouvoir les déployer en utilisant des solutions diverses et variées, que ce soit via Visual Studio, du PowerShell, le portail Azure ou même la commande Azure CLI qui est faite en Node.js et donc qui est utilisable sur Windows, Linux et Mac. Et ils vont avoir une caractéristique qui est très très importante, c'est qu'ils sont totalement idempotent. C'est-à-dire qu'en gros, si j'applique n fois de suite un script Azure Resource Manager, le résultat final sera toujours le même, puisque c'est Azure Resource Manager lui-même qui me garantit cette idempotence. Et donc, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tout de suite en démonstration, on est sur du fichier texte JSON, donc ça, je le mets dans mon contrôle de code source, et je le fais évoluer avec mon application, et donc je suis capable, à n'importe quel moment, de revenir sur une version antérieure pour redéployer en une ligne de PowerShell ou un clic dans le portail une infrastructure complète qui peut être très complexe, comme toute simple, mais c'est la même méthode pour tout faire. Et c'est Azure Resource Manager via les différents ressources providers Azure derrière qui va aller instancier les différents services au fur et à mesure dans un ordre bien précis si besoin, puisqu'on pourra aussi gérer des dépendances. Enfin, c'est un langage assez évolué vraiment pour décrire une infrastructure complète en tant que code.
Évolué, mais on va voir que les outils pour écrire ce genre de script et de JSON sont de haut niveau et donc permettent de faire ça de façon... Plutôt agréable.
Donc il y a deux façons de déployer un ressource group. Soit eh bien, on va le faire de façon programmatique. Donc là, on commence par créer son ressource group et puis on va aligner des lignes de code, alors soit en PowerShell, soit en Azure CLI. Je vais avoir besoin par exemple d'un availability set, donc je crée un availability set. Je vais avoir besoin d'un compte de stockage pour mettre le VHD de ma VM, je crée du compte de stockage. Je vais créer mon subnet, je vais exposer des public IP, je vais créer un front-end pour mon load balancer. Donc tout ça, on peut l'automatiser de façon programmatique. Là aussi, on peut le réexécuter plusieurs fois et ça va se compléter au fur et à mesure. Donc les commandes sont là, elles permettent de faire tout un ensemble de choses très intéressantes. Tout à l'heure, je parlais de la possibilité de customiser les VM. Ben, on supporte Cloud Init dans les VM Linux, donc on peut référencer un fichier YAML pour faire et le passer dans le paramètre custom data et lancer une configuration via un script bash. Donc on peut faire tout ça. C'est une première façon de faire. Une façon plus déclarative, sans doute plus efficace, hein, je vous laisserai juge, c'est effectivement, on recommence par la même commande, New Azure Resource Group, mais on va faire son déploiement à partir d'un fichier de template et d'un fichier de paramètres pour ces templates. Et donc ces fichiers de template, il faut les écrire. Donc pour ce faire, on a plusieurs types d'outils. Un outil qui est assez sympathique, moi je vous le recommande, mais ce n'est pas le seul, c'est Visual Studio. Donc Visual Studio vous permet de créer un projet de type Azure Resource Group.
Donc juste pour avoir accès à ces outils, il faut installer le SDK, les outils Azure pour Visual Studio, tout simplement. Et à partir du moment où on a accès à ces outils.
On a accès à ces outils, bien évidemment, et il n'y a pas besoin d'avoir de, sauf erreur de ma part, il n'y a pas besoin d'avoir de version haut de gamme de Visual Studio pour en bénéficier.
Donc c'est une raison pour laquelle nos amis Ops sont vivement encouragés à regarder Visual Studio, ils vont voir que c'est pas si compliqué que ça, quoi.
Voilà.
Ça peut faire peur au début.
Il y a quelques cris au début, et puis après, ça va.
Alors, c'est pas la seule... Je parlerai quand même au moins d'une autre alternative qui est Visual Studio Code, mais ce que je trouve intéressant dans Visual Studio, c'est déjà cette possibilité de choisir des templates par défaut. Donc, on a une galerie de templates. Alors, on a beaucoup de possibilités, hein. Il y en a qui ont été évoquées par Julien. Par exemple, on peut créer ce qu'on appelle un scale set, donc c'est un ensemble de VM identiques, très utile si vous voulez faire de l'autoscaling par exemple, et sur des gros volumes, notamment des clusters ou pour des solutions big data, ça peut être intéressant de partir sur ce type de mécanisme de déploiement. Donc vous l'avez sur du Windows, vous l'avez sur du Linux, bon mettons que je parte sur du Linux. Et donc, ce que vous fait Visual Studio, à partir de ce type de projet, c'est qu'il vous crée à la fois les deux templates dont je parlais tout à l'heure, on va aller le regarder un peu plus en détail, le fichier JSON et son acolyte, hein, le parameters.json, et un script PowerShell. Alors, je vais lancer le déploiement, vous allez voir, ça prend pas très longtemps de déployer pour peu qu'on soit authentifié. Ça prend pas très longtemps de déployer un VM Scale Set. Donc, par exemple, là, je vais créer un nouveau groupe de ressources, MVA DevOps.
Donc là, tu as lancé le déploiement de ton template JSON.
Oui, enfin, il n'est pas encore parti, mais oui, je suis dans la démarche. Oui.
Ce qu'il faut préciser, c'est que là, tu dois saisir dans tous les paramètres qui sont définis.
Exactement.
Qui ne sont pas renseignés dans le fichier paramètres associé.
Exactement. Alors là, je commence d'un point de vue purement plomberie. Où est-ce que je vais aller déployer mon ressource groupe? Il faut peut-être lui dire, on a beaucoup de data centers. Hein. On en a combien? 24
28, je crois.
28, bon, bah, je me suis absenté une semaine, vous voyez, fallait pas. Moi, j'aime bien l'Europe de l'Ouest.
Ouest, donc selon
Ouest Europe, c'est Amsterdam.
Amsterdam.
Ouais. Et puis, alors j'ai la possibilité éventuellement de renseigner un compte de stockage. Alors si vous avez des artefacts complémentaires du type, vous voulez justement lancer une configuration via DSC, vous allez pouvoir vous appuyer sur un compte de stockage dans lequel vous déploierez les éléments dont a besoin votre template JSON pour aboutir. Bon, on regardera ça très rapidement. Et là, je peux éditer les paramètres. Alors ces paramètres, c'est ceux qui sont dans mon fichier Linux Virtual Machine Scaleset Parameters ou ceux qui n'y sont pas. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas... mon nom de scaleset. Il n'y avait pas le nombre de... Bon, alors, je ne vais pas vous en monter 2000. Hein, j'ai pas renseigné mon utilisateur, voilà. Un password, ça peut être pas mal. Bon, éventuellement, on pourrait le customiser pour mettre une clé SSH. Ce serait plus... pratique. Donc là, il lance le déploiement. Alors pendant qu'il... il me redemande le password, je vais essayer de mettre le même. Pendant qu'il fait son travail, donc il vérifie la validité du template, alors sachant que vous avez la possibilité de valider votre template également avant de le lancer en ligne de commande aussi. Alors on va regarder un petit peu très rapidement, c'est le même genre de script PowerShell que celui que je vous montrais, hein, c'est-à-dire que au-delà... En complément, il gère ce artifact staging directory dont je parlais pour les fichiers complémentaires. Mais au final, ce qui fait de réellement intéressant, c'est la création du ressource group et le ressource group déploiement. Donc, se retrouve dans le petit programme PowerShell que je vous montrais, auquel il passe un certain nombre de paramètres, le template file et le template parameters file. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers ?
Donc, le script PowerShell, il est généré par Visual Studio. Hein.
Exactement, oui. Donc, alors vous allez me dire, oui, effectivement, c'est pas forcément très lisible, mais on va revenir là-dessus. Donc, un fichier JSON, template de déploiement ARM, il est composé de paramètres. Donc, c'est les paramètres que je vais pouvoir renseigner par défaut. Par exemple, ici, il y a une default value, c'est la taille de ma machine. Et il peut être complété par les paramètres que je vais lui donner dans le fichier paramètres associé. Mais typiquement, je n'ai pas eu besoin de renseigner tous les paramètres dont va avoir besoin mon fichier de déploiement, parce que j'ai des valeurs par défaut qui sont renseignées en amont, si je puis dire, dans la liste des paramètres. Donc il y a la version Ubuntu, donc je peux aller modifier ces paramètres, je peux ne pas mettre de valeurs par défaut, auquel cas la question me sera posée. Et donc on retrouve les différents paramètres qui vont ensuite être utilisés. Alors, ils vont être utilisés où ? Ils vont être utilisés dans les ressources. Donc les ressources, on va retrouver différents types de ressources. Des ressources dont on a besoin pour créer la machine virtuelle. La machine virtuelle, forcément, en YASV2, elle va avoir besoin d'un réseau, donc on va créer la notion de virtual network. Elle va avoir besoin d'un compte de stockage, donc même chose, il faut renseigner ses paramètres. Comme on est dans un scaleset, forcément, il faut potentiellement avoir plusieurs comptes de stockage, donc on a ici ce qu'on appelle une storage loop, donc on va itérer sur la création du compte de stockage, on va créer une adresse IP publique, on va créer un load balancer. On retrouve tous les éléments qu'on avait dans le PowerShell tout à l'heure de façon programmatique, sauf qu'ils sont donnés cette fois-ci de façon déclarative. Et en complément des paramètres qu'on va injecter, on a aussi cette notion de variable. Donc la notion de variable, elle est intéressante également parce que vous n'avez pas besoin non plus d'exposer tout sous forme de paramètres. Il y a des choses que vous allez pouvoir aussi obtenir par concaténation. Donc là, typiquement, la localisation de mon source group, je l'ai renseigné au moment du déploiement. Chaque fois que je vais aller créer un élément, chaque fois que je vais aller créer une ressource, je ne vais pas lui dire, tiens, mets-la-moi dans tel ou tel data center. Donc je peux gérer une variable location dans laquelle je mettrai mon ressource group location et je n'aurai plus qu'à utiliser variable location chaque fois que je veux aller localiser une ressource à un endroit déterminé. Même chose pour les opérations de concaténation. Ici, vous avez un paramètre de concaténation, c'est extrêmement utile. Ça également, Unix String, c'est très utile parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est les comptes de stockage, typiquement. Lorsque vous voulez relancer plusieurs créations d'un ensemble de ressources, eh bien, il ne faut pas retomber sur un nom de storage account que vous auriez déjà donné, puisque sinon vous allez arriver à une erreur parce qu'il va vous dire il existe déjà, s'il a été utilisé dans le cas d'un autre déploiement. Donc là, si vous mettez Unix String, vous êtes sûr d'avoir votre nom unique de ressources groupes, et de cette façon vous allez pouvoir créer des ressources qui sont nécessairement nommées différemment.
Ça ressemble à un GUID ou quelque chose comme ça.
Voilà, exactement, oui, c'est un GUID. Donc voilà, donc vous avez tous ces paramètres qui sont à votre disposition, toutes ces variables que vous allez créer à partir des informations dont vous disposez. Et puis ensuite, vous avez les ressources dont vous avez besoin pour créer les éléments. Alors, effectivement, c'est du JSON. Ça peut paraître un peu… abscon pour certains ou pas. Enfin bon, ça dépend des sensibilités, on va dire. C'est pour ça que ce qu'on propose également, pour peu que j'étende un peu le champ des possibles, voilà. C'est un assistant, JSON Outline. Donc c'est une des forces également de l'extension qui est proposée dans Visual Studio. C'est de vous proposer cette vue JSON sous une forme un peu plus exploitable. Dans la mesure où vous allez pouvoir vous promener sur chacun des paramètres, même chose pour les variables. Et du coup, vous avez une vision des ressources utilisées dans votre scale set de déploiement qui est beaucoup plus lisible. Donc on a effectivement le compte de stockage. Et là, on a des ressources un petit peu brutes de fonderie, si je puis dire. Là, c'est vraiment des ressources Azure qu'on va utiliser telles quelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant que je suis en train de discuter, vous voyez, il est en train gentiment de se déployer. On peut aller voir ce que ça fait. Donc vous avez dans le nouveau portail Azure la notion de ressource groupe, évidemment, qui est matérialisée. On va filtrer par… j'ai un peu trop de souscriptions, là. Voilà, problème de riche. Et donc, en principe, il devrait y avoir quelque chose qui s'appelle DevOps MVA, rassurez-moi. J'ai déployé sur quel… Je me rappelle plus sur quoi j'ai. C'est bien, je me rappelle plus sur quoi je l'ai déployé. Vous avez été attentif ou pas?
Au niveau de l'abonnement, non.
C'était MVA DevOps. C'est amusant.
Ah, il est là.
Ah, effectivement. Alors, il est sur Steve Wynn the Cloud. Je pensais qu'il était sur l'autre. Il a fini, tiens. Donc
on retrouve toutes tes ressources déjà, c'est bien.
Ah, et déjà, on voit les ressources. Alors, on voit à peu près les mêmes. Alors, éventuellement itéré. Un scale set, comme vous voyez, c'est un ensemble de VM. C'est d'où la. La petite icône qui représente plusieurs VM. Vous avez le load balancer qui a été automatiquement créé et configuré avec son back-end pool sur lequel vous devez avoir déjà les deux instances qui ont été associées avec… j'étais un peu vite… avec les règles de NAT inbound qui ont été automatiquement configurées pour pouvoir se connecter en SSH sur la machine, avec une redirection sur le port 22, vous voyez, bon, celle-ci sur le port 5000, l'autre sur le port 5001. Enfin bref, tout ça, j'ai pas eu besoin de le faire. Et puis les comptes de stockage pour stocker la VM. Effectivement, je n'avais pas été au bout des choses, successfully déployé de template, ceci explique cela. Donc, première chose, alors on peut voir sur le portail atterrir son déploiement avec le plus grand intérêt. On peut également aller voir exactement ce qui s'est passé au cours du déploiement. On voit les différentes opérations. C'est très très utile en phase de mise au point parce que quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, bon là évidemment ça se passe bien, mais vous allez avoir une couleur qui ne va plus être verte, qui va être rouge, c'est assez significatif. Donc on va tout de suite voir pourquoi ça a coincé. Et on a toujours des tas de raisons intéressantes pour arriver lorsqu'on est en phase de mise au point d'un template assez, assez complexe. C'est quand même extrêmement pratique de pouvoir aller voir ce qui s'est passé exactement. Alors je voulais juste vous montrer qu'on pouvait également, chose intéressante, faire ce qu'on appelle du link template. C'est-à-dire qu'ici j'ai un template de déploiement. Et au lieu de monter des ressources directement, je monte une ressource de type déploiement. C'est-à-dire que ma ressource qui est ici, elle correspond à un template qui en fait lui-même correspond à un fichier JSON que je vais renseigner et que je vais mettre à disposition. Alors si vous êtes en open source sur GitHub, bah, vous mettez directement le lien GitHub. Si vous êtes sur un environnement un peu moins ouvert, vous pouvez le mettre dans un compte de stockage sécurisé par exemple. Et donc typiquement lorsque vous montez, là c'était pour une plateforme un petit peu complexe, il y avait une vingtaine de machines, il y avait un cluster Loison et autres, vous pouvez procéder par étapes, valider chacune des étapes de constitution de votre plateforme. J'ai besoin d'un IT7, j'ai besoin de storage account, et là vous mettez à la queue leu-leu les 20 storage account dont vous allez avoir besoin, j'ai besoin de temps d'adresse IP, load balancer. Vous créez vos cartes réseau, puis à partir d'un certain moment, vous allez passer dans un modèle un peu plus… vous allez cibler chez certains types de machines et faire un certain nombre d'opérations sur les machines.
Ou même tout simplement, du coup, pour de la factorisation, si sur plusieurs projets j'ai besoin d'un SQL always on, bah, je peux écrire une fois le template et puis le partager à travers plusieurs équipes. C'est aussi ça un petit peu l'esprit de collaboration qu'on a utilisé. C'est des choses qu'on peut faire.
Tout à fait. Et donc Visual Studio, ce que ça vous apporte, c'est à la fois cette lisibilité, la possibilité d'ajouter de nouvelles ressources directement avec Wizard, donc, qui va vous proposer toutes les ressources qui sont valables dans le catalogue et qui verra directement vous rajouter le JSON donc de façon correcte. Ensuite, encore une fois, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres outils, Visual Studio Code, que vous pouvez installer sur un Mac, sur Linux, vous allez l'utiliser là exactement.
Côté assistant graphique pour les chercher.
Vous n'aurez pas le côté assistant, mais vous aurez de la coloration syntaxique, c'est déjà ça. Vous pourrez utiliser Git pour archiver votre code. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Alors aussi, je voulais vous montrer des choses fort intéressantes, forcément. Je voulais vous montrer que ces modèles que vous allez vous-même développer, parfois, certains ont pensé le faire avant vous, donc c'est peut-être dommage de réinventer la roue. Donc, je ne sais pas si je tape assez, je trouve des choses là où... Ou alors suggérez-moi quelque chose plutôt...
WordPress.
Oui.
Allez.
Ah voilà, il était déjà parti. WordPress. Voilà. Bien. Donc là, ça me ramène un blog. Je suis bien sur la marketplace. Ah,
C'est ça.
Déploy with Docker.
Et donc là, vous allez avoir non seulement un descriptif de votre template, du template de déploiement qui est proposé par un tiers, avec le PowerShell pour le déployer ou l'Azure Cli, chacun selon ses préférences. Et puis vous avez aussi le bouton sur lequel vous cliquez et qui vous le déploie directement dans Azure. Enfin, il va vous proposer dans le portail Azure de renseigner les paramètres correspondant au déploiement. De même que dans le portail Azure, vous pouvez faire New Custom Deployment et renseigner un template. Vous pouvez aussi exporter un template à partir d'une ressource qui a été pré-créée. Donc ces templates
particulièrement intéressant, oui. D'exporter.
Alors ensuite, vous n'allez pas avoir vous exportez, vous n'aurez pas forcément le niveau de factorisation que peuvent avoir les lignes templates, mais vous aurez de variabilité que vous auriez eu avec les variables. Par contre, vous aurez quelque chose qui est réutilisable.
Une base.
Et c'est ça qui sera d'ailleurs intéressant dans ces Quick Start Templates, c'est pas de les réutiliser, sauf dans certains cas vraiment tels qu'ils sont, mais c'est plutôt de s'en inspirer, de les composer.
Oui. Ou alors quand on se pose des questions, je me posais je sais plus quelle question sur une VM multinique, j'ai été voir exactement comment c'était géré en exportant celle que j'avais pu créer à la main, enfin bref. Et comme ça, on apprend, apprentissage en continu, c'est très DevOps. Donc ces templates, ils représentent en fait une sous-partie de ceux qui sont disponibles dans GitHub, c'est les Azure Quick Start Templates. Donc ça dépend si les métadonnées ont été renseignées, on les retrouve sur le search Azure. Alors l'intérêt de les chercher sur le portail institutionnel Azure, c'est que vous pouvez faire des searches, alors que là vous êtes un peu plus en exploration sur ce qui est disponible ou pas. Donc on peut cliquer sur le bouton Deploy to Azure et faire comme je venais de vous le montrer, un déploiement directement. Ou on a un bouton de visualisation aussi, il y a un site open source qui permet d'afficher les templates. Enfin, il y a un outil qui s'appelle Resource Explorer également, qui est intéressant, qui permet donc d'aller naviguer dans les ressources groupes. Donc là, typiquement, sur Stevego in the Cloud, le problème, c'est que j'arrive d'en avoir beaucoup, j'aurais mieux fait de déployer sur l'autre. Le DevOps MVA, DevOps, c'est pour ça, je ne cherchais pas au bon endroit. Donc là, vous avez le ressource groupe qui a été déployé, on retrouve la notion de compute, network, ressource, storage, et donc on peut aller explorer ça d'un peu plus près. Encore une fois, c'est un outil extrêmement intéressant en phase de debugging.
Oui, ça peut être intéressant même de se dire, soit d'utiliser la partie export, soit d'utiliser ce portail-là. Je crée mes ressources au travers du portail Azure, et ensuite je vais voir ce que ça a donné en JSON, et puis j'exporte ça, je compose mon propre ressource template, et puis... puis après, je le déploie au jeu, quoi.
Exactement.
Alors Stéphane, tu as parlé des Quick Start Templates. Oui. Il y a une autre méthode pour trouver des modèles tout faits.
Effectivement. Alors donc, il y a ce qu'on appelle l'Azure Marketplace. Donc le principe technique, en fait, on vient de le voir ensemble, la Marketplace met à disposition des environnements clés en main avec du provisioning et de la configuration. Donc c'est fait à la fois par Microsoft et par l'écosystème. Donc on retrouve des environnements complets pour faire, je sais pas, du big data, on va avoir une plateforme, un cluster Hortonworks en l'espace de quelques clics, avec différents modes de licensing. Ça peut être du bring your own license, ça peut être de la facturation à la consommation, c'est-à-dire qu'au-delà du prix de la VM, vous pouvez être facturé en plus parce qu'il y a un service qui vous est proposé, que ce service est proposé sous forme locative, on va dire. Et donc, c'est vraiment un environnement qui accélère vraiment le dev and test, parce que vous voulez prouver une nouvelle solution. Vous êtes en phase de sélection d'une solution de firewall, bah, vous avez F5, vous avez Barracuda, Checkpoint, vous allez pouvoir faire différents tests et voir celui qui vous correspond le mieux. Ça répond à des problématiques qu'on ne sait pas forcément adresser. Typiquement, vous avez besoin d'une solution NAS pour le cloud. Bah, vous allez trouver plusieurs solutions clé en main qui vont vous proposer ce type de service. Et donc, vous allez avoir à la fois… Alors là, je vous ai surtout parlé de ce qu'on appelle la VM Marketplace, parce que c'est un peu le contexte, mais vous avez également d'autres services qui sont proposés dans la marketplace, type des frameworks web pour enrichir des web apps.
Mmh. Ou les projets Cognitive Services, par exemple, qu'on a annoncé à Bill, qui sont une évolution de projet Oxford. Toutes les API un peu intelligentes, reconnaissance d'images, de visages, savoir l'âge des personnes, etc. C'est des choses qui vont être facturées en fait à l'utilisation au travers d'Azure et qui seront disponibles sur cette marketplace. Et
vous avez effectivement la Machine Learning Marketplace où vous pouvez partager le fruit de vos cogitations d'algorithmes que vous allez mettre à disposition. Mais aujourd'hui, on a plus de 600 VM déjà préconfigurées qui correspondent vraiment à un besoin particulier, qui sont des solutions que proposent nos partenaires. Et comment font-ils pour les mettre en place? Eh bien, ils font des templates ARM et ils les mettent en validation, entre guillemets, chez nous, pour garantir le fait que quand vous cliquez sur le déploiement des…
Ça se passe bien.
Oui, que ça se passe bien, que vous allez bien avoir le service que vous souhaitez avoir, et vous allez l'avoir dans des délais qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on pouvait connaître par le passé quand on se lançait dans la mise à l'épreuve d'une solution. Et c'est également des solutions qu'on peut mettre en production ensuite si on le souhaite.
Donc c'est aussi un accélérateur, l'infrastructure as code.
Oui, très clairement. Oui.
Donc on a beaucoup parlé des modèles JSON ARM. Si ces modèles, on pouvait les réutiliser dans d'autres contextes que le contexte pure cloud Azure, ça serait quand même super intéressant. Et alors, ça va être le cas. C'est une bonne nouvelle. Ça va être le cas avec quelque chose qui s'appelle Azure Stack, donc qui est pour l'instant en preview, et qui permet en fait d'installer dans notre data center, dans le data center de l'entreprise, une infrastructure qui va ressembler de façon très proche à Azure, à ce qu'on connaît dans Azure. En fait, ça va ressembler si bien à Azure que l'API de déploiement et de l'interface en fait programmatique d'accès à l'infrastructure va être exactement la même que dans Azure, et ça va être basé sur ARM, sur Azure Resource Manager. Donc on va pouvoir prendre nos fameux templates JSON qui nous servent avec via leurs paramètres, leur fameux fichier de paramètres qu'on met à côté du fichier de JSON que tu montrais tout à l'heure, à déployer nos infrastructures sur différents types d'éléments, la prod, la pré-prod, le dev, le test, etc. Et également vers notre infrastructure interne dans notre data center, donc notre serveur Azure Stack. Donc globalement, Azure Stack, c'est quoi? C'est quelque chose qui est basé sur Windows Server 2016, donc qui sortira après la sortie de Windows Server 2016. Pour l'instant, c'est en preview, vous pouvez tester. On peut aujourd'hui déployer en ARM sur Azure Stack des infrastructures de type IaaS, des machines virtuelles, des réseaux virtuels, etc. On commence à voir aussi quelques services de type PaaS représentés disponibles sur Azure Stack, que vous pouvez tester aujourd'hui. Donc vous voyez Azure Stack un petit peu comme l'évolution suivante de l'évolution des data centers qui partaient des serveurs physiques, qui sont passés par une virtualisation élémentaire au niveau des machines virtuelles. On est passé à du cloud géré par exemple System Center Virtual Machine Manager. Et maintenant avec Azure Stack, on a quelque chose qui se rapproche de plus en plus d'Azure, en tout cas au niveau des API. Autre produit Microsoft présent dans Azure, cette fois-ci, est Azure Dev Test Labs. Alors ce produit est encore en preview aujourd'hui, en mai 2016, où on tourne cette vidéo. Azure Dev Test Labs, l'objectif, c'est d'aider le déploiement très rapide d'environnements de dev et test dans Azure. Les environnements de dev test, on a besoin que ce soit très rapide à déployer parce que quand les développeurs en ont besoin, c'est un petit peu gênant qu'ils aient à attendre 2 ou 3 semaines que les IT soient disponibles, que les ops soient disponibles pour déployer leur machine virtuelle. Donc l'idée, hein, c'est de faire du déploiement à la demande, un petit peu, c'est un petit peu le leitmotiv de l'évolution du rôle des ops dont on parlait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que nos IT admin, donc nos ops, préparent des modèles de déploiement de dev test dans Azure, et que nos utilisateurs, donc nos développeurs, nos testeurs, puissent utiliser ces modèles et les déployer à la demande, et de façon autonome, directement dans Azure. De façon autonome, mais comme on disait tout à l'heure, également avec un contrôle, notamment au niveau des coûts. Nos environnements de dev et test, on ne veut pas, par exemple, que le week-end, il coûte de l'argent parce qu'il se trouve dans Azure, alors qu'on n'en a pas du tout besoin pendant le week-end. Donc on va mettre en place des procédés qui vont faire qu'automatiquement, les environnements vont être arrêtés le vendredi soir, par exemple, le cas échéant. Dans notre cas, ça pourrait être tous les soirs, on va arrêter les environnements de dev ou de test. Ça peut également servir à d'autres contextes que le contexte purement projet, DevOps, etc. Ça peut servir à des salles de cours, à des environnements d'apprentissage, de formation, etc. Donc on va pouvoir, par exemple, mettre des quotas, dire par exemple que les développeurs auront le droit de déployer tel modèle, mais avec tel nombre de machines virtuelles au maximum, ou tel nombre d'environnements au maximum, donc une notion de quotas sur les quantités d'objets qu'ils pourront déployer, des policies, des templates de sécurité, des paramètres de sécurité, notamment au niveau airbag dont on parlait tout à l'heure, et puis des tableaux de bord qui vont permettre aux admins de surveiller l'ensemble. Donc l'idée, c'est d'avoir un déploiement d'environnement de dev test rapide, parce que c'est l'objectif du développeur d'avoir des environnements très rapidement, réutilisables, c'est-à-dire qu'un template fait dans un certain contexte va pouvoir réutiliser dans différents contextes, en dev, en test, en pré-prod, etc. Et puis, intégrer dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le tool chain, c'est-à-dire toute la chaîne d'outils qu'on va utiliser pour automatiser tous nos procédés DevOps. Là, on voit, par exemple, Puppet, Chef, Jenkins, Visual Studio, évidemment. Donc, on va pouvoir intégrer la génération, le déploiement d'environnement de DevTest via Azure DevTest Labs directement dans des tâches Visual Studio Team Services. Donc, Stéphane, voyons ça en pratique plutôt que
on va
en théorie.
Jeter un petit œil rapide à ce qu'on peut faire avec DevTest Lab. Donc là, j'en ai créé plusieurs. Bon, je vais prendre par exemple le lab Ethereum. Et donc, comme l'a dit Pascal, DevTest Lab, ça permet de définir un certain nombre de policies. Typiquement, la taille des VM. Je peux décider de l'activer et n'autoriser que tel ou tel type de VM. C'est-à-dire que les utilisateurs de mon lab n'auront pas la possibilité de monter une VM d'un certain type. Même chose, je peux gérer par utilisateur, dire tel utilisateur, je vais l'autoriser ou pas à approvisionner tant de VM. Je vais pouvoir fixer un quota global dans mon DevTest Lab. Je maximise le nombre de ressources de type VM qui pourront être montées. Je vais pouvoir définir une règle qui fera que tous les soirs, à partir de 21h, toutes les... par défaut, ils mettent 17h, mais c'est une solution américaine. Donc, à partir de 21h, il y a toutes les machines qui s'arrêtent. Même chose pour le démarrage. Peut-être qu'ils se lèvent plus tôt le matin, on va voir. Ah, 7h du matin, ceci explique cela. Il y a un petit décalage là, oui. Et donc, on peut définir donc, cette règle pour les jours de la semaine. Tous les jours, mon environnement de développement, il va se monter tout seul. À 7h, c'est peut-être un peu tôt, mais mettons qu'à 8h, on est tous là. Hein, donc, ça sera monté. Et puis, à 20h, hop, il redescend.
Donc ça, effectivement, c'est un point qui est super important parce que l'un des points qui était beaucoup reproché en fait, avec ce type d'infrastructure, c'est de dire, OK, on donne accès presque en autonomie à des ressources dans Azure. Mais le problème, c'est que le principe du cloud, c'est justement d'avoir des ressources illimitées et que si on fait n'importe quoi, ça peut vite coûter de l'argent.
Ah bon, la confiance n'est plus pas le contrôle.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, là, on a vraiment un moyen de limiter déjà les risques d'erreur parce que c'est souvent des erreurs ou des oublis. On oublie d'éteindre un cluster à droite à gauche, c'est arrivé à tout le monde. Donc c'est un vrai cadre qu'on pose sur les environnements de test et de dev ici. Quoi.
Alors donc il y a ce cadre qui a déjà de la valeur en soi. Et puis il y a une autre chose très intéressante. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a un sujet qui est la mode, il y a toujours des sujets à la mode, donc c'est le blockchain. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous y intéresser, mais quand on veut commencer à débroussailler un sujet qu'on ne connaît pas, on est très content de trouver quelqu'un qui a déjà commencé à réfléchir à sa place. Donc, chez nous, il y a Marley qui qui s'est intéressé au sujet. Et donc, comme, chez Microsoft, on encourage le partage et la collaboration, bah, ce qu'il a fait, c'est proposer ce qu'on appelle des artifacts. Donc, c'est-à-dire que, si je clique sur le lien, j'ai tout un ensemble d'environnements qui sont proposés pour étendre des machines Linux de telle ou telle distribution pour pouvoir se livrer à telle ou telle expérimentation sur du blockchain. Et donc, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, en tant que candidat à la configuration d'un environnement de dev test pour le blockchain? Bah, je vais dans les settings de mon environnement d'event test, toujours le même, et j'ai la possibilité d'aller configurer ce qu'on appelle un artifact repository. Et donc, dans cet artifact repository, là, je peux ajouter ce qu'on appelle donc, un artifact repository, excusez-moi, vous lui donnez un petit nom, vous mettez le lien, donc j'ai simplement copié-collé le lien que je venais de vous montrer, le folder pass, donc au niveau du lien, vous avez bass artifact, donc j'ai repris bass artifact, la branche, donc master, s'il vous faut un personal access token, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut le renseigner, donc là, en l'occurrence, c'est...
Par exemple, pour utiliser un repository Git privé, par exemple, voilà, repository exactement. Git entreprise, je produis des artefacts pour toute mon équipe et je les rends accessibles de manière privée, mais dans le portail Azure.
Tout à fait. Donc, une fois que vous avez fait cette étape de configuration, ça va vous donner des possibilités supplémentaires. Donc, vous avez pu voir que j'avais deux artefacts repository. Et là, vous pouvez créer des machines virtuelles de type lab. Donc, il va vous proposer toute un ensemble de distributions ou d'environnements, alors que ce soit sur Windows, sur Linux, sur lequel vous allez pouvoir déployer, sur la base duquel vous allez pouvoir déployer une machine virtuelle. Et puis, vous pouvez très bien, par exemple, si je prends une Ubuntu 14.04, vous lui donnez un petit nom. Hop. Vous renseignez ou pas une clé SSH
Donc là, pendant que tu le fais, en fait, on retrouve le workflow classique d'une VM. Buffer, mais il sera soumis à toutes les règles qu'on aura posées sur l'environnement de DevTest Lab.
Exactement.
C'est-à-dire que contrairement à la voie classique dans le portail Azure où je vais créer ma machine Ubuntu serveur, etc., où j'ai accès à toutes les tailles de VM, à toutes les, tous les stockages, etc., là, je suis limité en fait à ce qu'on aura autorisé au préalable dans l'environnement.
Exactement. Et là, vous allez choisir l'artefact qui vous intéresse. Et donc, la liste d'artefacts sera directement sortie, proposée à partir des deux repositories que j'aurai enseignées. Et donc, bah, si c'est Ethereum qui vous intéresse, vous avez le choix, soit en version C++, soit en Go. Vous prenez la version Homestead, par exemple. Vous créez un compte. Alors là, pour le coup, il faut mettre le même compte que pour la VM, sinon vous allez avoir des soucis. Et et vous validez. Des fois, il faut tester. Hein. Et donc, vous créez. Ah, alors, je ne vous ai pas montré, on pouvait voir le template ARM. Bon, j'étais un peu trop rapide. Et donc là, vous lancez votre environnement. Donc, vous allez avoir une machine virtuelle qui sera préconfigurée avec tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre d'aller plus vite pour jouer un peu avec le blockchain, et puis vous avez des tutoriaux qui sont renseignés sur le site GitHub de Marley pour explorer ça d'un peu plus près.
Ok, donc du coup, en fait, je pourrais très bien imaginer faire une VM, enfin un artefact qui me configure une VM pour un poste de dev avec tous les outils nécessaires, Visual Studio, Visual Studio Code, etc.
Tout à fait.
Et à chaque fois que j'ai un développeur qui rejoint mon équipe, hop, on lui instancie une VM dans le DevTest Lab, on est sûr qu'elle est éteinte le soir, on est sûr qu'elle ne prend pas trop de ressources, on a le contrôle vraiment là-dessus. Quoi.
C'est un bon cas d'utilisation, donc Julien, pour demain,
il n'y a plus qu'à.
Tu penses à nous faire ça ?
Julien, avant de terminer, on va dire deux mots sur le package management.
Oui, tout à fait. On en a un petit peu parlé de cette notion de package ou de factorisation, en tout cas dans l'idée d'être capable de packager soit de l'infrastructure, soit du code, des librairies ou n'importe quoi, en fait, pour être capable de le réutiliser au sein des équipes. Donc tout à l'heure, on avait l'exemple du template ARM qu'on va inclure dans un autre template ARM. Il aurait pu être fait par quelqu'un d'autre dans l'équipe, voire quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, pourquoi pas. Et en fait, c'est aussi une bonne pratique à mettre en place dans le cadre de l'adoption d'une démarche DevOps, dans le cadre de cette communication entre les équipes, puisque bah, l'idée, c'est de... d'essayer de ne plus avoir cette espèce de concurrence qu'on pouvait avoir autrefois entre différentes équipes où on va aller plus vite, on va faire mieux, etc. Mais plutôt de partager vraiment un maximum de sources, que ce soit du code source ou de l'infrastructure source, pour faire en sorte d'aller plus vite. Donc on a un certain nombre d'outils qu'on va pouvoir utiliser en fonction du contexte, que ce soit la galerie de modules PowerShell par exemple. On va pouvoir soit utiliser des modules existants qui sont fournis par Microsoft ou des tiers, soit produire ses propres modules, ses propres CMDLets et les mettre à disposition de ses équipes. Ça peut être des gestionnaires de packages comme NuGet par exemple pour des librairies .NET, comme NPM pour des librairies Node.js, des gestionnaires applicatifs, de packages applicatifs comme Chocolaté aussi, qui vont nous permettre de faire redescendre un certain nombre de soft sur les machines de développement, sur les machines des ops, etc. Ou dans un contexte totalement différent, ça peut être des images Docker. Par exemple, Docker, ça va fonctionner avec une notion d'image en couche. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros une notion d'héritage. Je me base à chaque fois sur une image pour construire ma propre image et instancier un conteneur. Et ces images-là, je vais pouvoir les stocker à différents endroits, soit dans le Docker Hub, qui est la partie publique, où je vais pouvoir récupérer une image Node.js, une image Apache, Nginx, ou même aujourd'hui des images pour les Windows conteneurs, puisqu'on est à un stade avec Windows Server 2016 où on a introduit les Windows conteneurs et où les images sont disponibles dans le Docker, donc des images pour avoir serveur web, 2IS, etc. Et je vais pouvoir tirer profit de ces images publiques pour créer des images privées internes à mon entreprise que je vais stocker dans un Trusted Registry, donc qui est l'équivalent du Hub, mais avec un contrôle d'accès LDAP, authentifié, etc., quelque chose de privé. Et donc je vais pouvoir avoir mes équipes Ops qui vont préparer des images avec toute la configuration nécessaire, et ces images seront ensuite exploitées par les développeurs, où ils auront juste à venir packager l'application à l'intérieur. Et donc on favorise vraiment la réutilisation et le partage de la connaissance et de la compétence aussi au sein des équipes.
Donc en conclusion, c'est un module assez riche, puisqu'il concerne à la fois les devs et les ops de façon très importante, et notamment le changement de rôle des ops comme on l'a vu, hein, l'ops as a service, comme on a osé l'écrire sur cette slide de conclusion. On a parlé également d'infrastructure as code, donc j'encourage vivement nos amis IT, ops, etc., à s'intéresser notamment à Visual Studio, au modèle JSON lié à Azure et à son nouveau modèle ARM. Et puis on a vu également les problématiques de factorisation et de réutilisation en dernier lieu. Merci Julien, merci Stéphane.
Merci Pascal.
On se retrouve tout de suite avec le module suivant.